Bonjour à tous, à la une ce matin, retour sur les tensions communautaires entre Peul et Dogon au Mali. Dans ce journal, les premiers témoignages de survivants de ce terrible massacre qui a fait 157 morts le mois dernier. Reportage sur place à suivre. La suite de l'enquête à l'EHPAD du Lerme près de Toulouse où 5 retraités ont perdu la vie. La ministre de la Santé sera sur place dans la matinée. Dans l'actualité également, 50 prisons fermes requis contre Bernard Tapie. Une nouvelle victoire de la rue algérienne avec Abdel Aziz Bouteflika qui va quitter le pouvoir avant la fin de son mandat. Et puis on parlera également de la disparition des jardins d'enfants, de la bataille du camembert et du dernier livre de Guillaume Musso.
Monsieur le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo est l'invité, je vous le rappelle, d'Alexandra Ben Saïd dans 20 minutes à 7h50.
France Inter.
C'était il y a 10 jours, Sébastien, au centre du Mali, un village Peul ensanglanté par une immense tuerie.
Près de 160 morts en quelques heures seulement, des femmes fusillées, des enfants jetés dans des puits, des hommes tués au couteau. Un massacre attribué aux chasseurs Dogon qui accusent les Peuls d'être du côté des djihadistes du Sahel. L'enquête ne fait que commencer, la police judiciaire malienne est sur place. Elle dit vouloir faire toute la vérité sur ces meurtres afin de contenir les risques de guerre ethnique. En attendant, l'une de nos reporters s'est rendue dans la région, à l'hôpital de Sévaré, où une quarantaine de blessés ont été évacués. Marie Matigo a rencontré l'une de ces victimes.
Il y avait tellement de morts, je ne pouvais pas les compter.
Cette femme a été blessée au visage par des éclats de balles.
Ils n'ont épargné ni les enfants, ni les femmes, ni les vieillards. Ils tiraient sur tout ce qui bougeait.
Ce samedi-là, vers 5h du matin, les habitants d'Ogossagoupol sont réveillés par des coups de feu. Plusieurs dizaines d'assaillants, encore non identifiés, ont encerclé le village et incendié les cases.
Ils parlaient Dogon entre eux. L'un a dit tirer, l'autre non, mettons seulement le feu. Un troisième, avec son couteau, cherchait à égorger. Il s'exprimait en Dogon, pas en Bambara. C'était des Dogons des villages alentours qui se sont regroupés. Je les connais tous.
Dans le village, une soixantaine d'hommes appartiennent à un groupe armé de défense Peul qui se réclame du processus de désarmement.
On nous a dit que les Peuls doivent se regrouper pour leur propre sécurité parce que les Dogons attaquent très fréquemment les Peuls. Ce n'est pas pour attaquer qui que ce soit, mais on reste dans le village pour le protéger et riposter en cas d'attaque.
À cause de la menace des groupes djihadistes et de l'absence de l'État, les violences communautaires se sont exacerbées dans le centre du Mali. Selon l'ONU, elles ont fait plus de 700 morts depuis l'année dernière. Bamako, Marie Matigo, France Inter.
Et ajoutons que 5 hommes reconnus par des rescapés comme de possibles participants à cette tuerie ont été arrêtés et transférés à Bamako vendredi dernier.
Il est 7h33 en France, Sébastien. L'enquête autour de l'EHPAD du Lerme s'annonce longue.
Oui, au cœur de cette enquête, les repas distribués dimanche soir aux résidents et qui sont, semble-t-il, à l'origine de l'intoxication alimentaire ayant causé la mort de 5 pensionnaires. Ces repas ont-ils été fabriqués sur place ou à l'extérieur? La version des familles s'oppose à celle de la direction. Benjamin Mathieu.
Réveillé par les gendarmes, hier vers 2h du matin, Emmanuel Courvoisier et sa sœur ont appris que leur mère, Suzette, était morte après avoir dîné, victime probable d'une intoxication alimentaire dans un EHPAD pourtant présenté par son propriétaire comme haut de gamme.
Toutes les maisons de retraite sont chères, mais quelle que soit la somme, personne n'a envie de voir son parent intoxiqué. C'est juste pas normal.
Âgée de 75 ans, elle était autonome, selon son fils. Il a tout de suite suspecté la qualité dans la fabrication des plats.
J'ai pensé que ça venait des plats mixés. On m'a dit que les autres services étaient touchés aussi. Non, ils ne se sont pas étendus sur le sujet. J'ai pas eu d'informations. J'ai posé la question et j'ai pas eu de réponse. Ça, c'est presque quelque chose d'intentionnel.
Le groupe Corian, propriétaire de l'établissement depuis 2 mois, affirme que les plats sont transformés sur place, contrairement à certaines familles de victimes. Le directeur général du groupe, Charles-Antoine Pinel, n'a pas souhaité répondre aux journalistes hier sur cette question lors de sa conférence de presse.
Nous sommes tous sous le choc et je tiens à leur exprimer ma profonde compassion. Comme vous le savez, il y a une enquête en cours sous l'autorité du procureur de la République et je ne peux pas faire d'autres commentaires.
Plusieurs familles ont déjà annoncé qu'elles portaient plainte. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, se rend, elle, sur place aujourd'hui pour comprendre, selon elle, les circonstances de ce drame.
Benjamin Mathieu, puis ajoutons que 12 résidents sont encore à l'hôpital ce matin. Dans la mort d'Ange Dibenecha, ce jeune d'origine africaine, décédé lors d'un contrôle de police il y a 2 jours, les premiers résultats d'autopsie ont été communiqués hier au parquet de Paris. L'autopsie qui, pour le moment, plaide en faveur d'une mort d'origine toxique. De nouvelles analyses toxicologiques sont toutefois attendues. Les jardins d'enfants, victimes collatérales de la réforme Blanquer. précaire. C'est en effet une conséquence du projet de loi pour une école de la confiance. Avec la maternelle obligatoire dès 3 ans, les jardins d'enfants à mi-chemin entre crèche et maternelle, accueillant des enfants de 2 à 6 ans, ces structures municipales ou associatives vont disparaître d'ici 2 ans, alors qu'elles existent pour certaines depuis un siècle. Les personnels des éducateurs et non pas des enseignants sont inquiets et appellent à la grève aujourd'hui. Comment fonctionnent ces jardins d'enfants? Quelle éducation défendent-ils? Le reportage de Sonia Princet dans le 18e arrondissement de Paris.
Chaque enfant a un instrument de musique à la main. Ce serait impossible dans une classe de 30 en maternelle.
Voilà, donc là c'était les plus jeunes, les tout petits, 2 ans et demi.
Ici, ils ne sont pas plus de 20 par section. Sébastien Pena est le directeur de ce jardin d'enfants.
Nous n'avons pas la même formation que les professeurs des écoles. On a une formation de 3 ans après le bac sur la psychopédagogie, le développement de l'enfant et les pédagogies qu'on appelle actives, dont la plus connue est celle de Montessori, où l'idée c'est de mettre l'enfant au centre de son processus de développement et partir vraiment de l'enfant.
Là, il y a une section d'un peu plus grand, c'est les enfants qui vont avoir 4 ans pour la plupart. Ils sont en regroupement avec l'éducatrice.
Alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui?
On a fait des poissons.
Des poissons d'avril.
On va raconter l'histoire?
Les éducateurs font du sur-mesure et accueillent 13% d'enfants en situation de handicap. Émilie Astruc a découvert le jardin d'enfants de son quartier par hasard et ses 3 enfants y sont allés.
Il y a des choses assez étonnantes, hein, des gens avec qui on discute et qui nous disent par exemple à l'école maternelle, il n'arrivait pas à s'adapter. Je dis, mais pourquoi? Cet enfant parle très bien, il est très éveillé. Ben, en fait, il n'était pas propre. Alors on l'obligeait à pas mettre de couches et du coup, il était mal à l'aise parce qu'il savait qu'il allait se faire pipi dessus.
Les jardins d'enfants fonctionnent comme une crèche. Les parents payent en fonction du quotient familial. S'ils se transformaient en petite école privée, il n'y aurait plus la même mixité sociale.
Coucou, je suis là.
Voilà. Voilà le reportage de Sonia Princet. Prochain mouvement contre la réforme Blanquer, les instituteurs qui appellent à descendre dans la rue jeudi prochain dans 2 jours. Une mauvaise nouvelle pour Boeing, impatient de refaire voler ses 737 Max. L'avionneur américain va devoir revoir sa copie. Boeing avait présenté la semaine dernière des modifications de son logiciel anti-décrochage en cause dans 2 crashs. Mais la Fédération américaine de l'aviation civile demande des compléments avant de donner son feu vert. Elle, en revanche, c'est l'entreprise la plus lucrative au monde, le numéro 1 mondial du pétrole, le géant saoudien Saudi Aramco, qui publie pour la première fois ses chiffres, tenus secrets jusqu'ici, bénéfice net, 99 milliards d'euros, tellement de zéros que je m'en perds. Une entreprise 2 fois plus rentable qu'Apple et Google réunis.
Il est 7h38, Sébastien, la bataille du camembert fait rage chez les parlementaires.
On est loin des bénéfices des compagnies pétrolières. L'enjeu ici, c'est la préservation de l'AOP. L'appellation d'origine protégée. Les grands industriels du lait comme Lactalis veulent pouvoir donner ce label à leur camembert pasteurisé. Pas question, répondent les petits producteurs de lait cru moulé à la louche. Une guerre économique qui a sa traduction politique. Du côté du camembert au lait cru, un député du Loiret. Et du côté du camembert pasteurisé, une sénatrice de l'Orne qu'a rencontré Camille Crognier.
Camembert, c'est chez elle, affirme fièrement Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, qui bondit quand on lui demande si l'AOP pour le pasteuriser n'est pas une insulte au vrai camembert.
Mais non, c'est un marché où il y a de la place pour tout le monde. Vous savez, l'élitisme, c'est bien, mais le fait que les filières survivent, c'est beaucoup mieux. Et nous, dans nos territoires, on a besoin que les producteurs qui font du lait de Normandie avec des vaches du troupeau normand, on a besoin de les renforcer.
Car le cahier des charges prévoit l'appellation d'origine contrôlée à condition que le camembert contienne 30% de lait de vache normande, nourri avec de l'herbe normande, elle aussi. Tant pis pour les techniques ancestrales et le goût au profit d'un machin plâtreux, dénoncent les opposants. Claude Marais est président des Fromagers de France.
Pour nous qui défendons les terroirs, faire re-rentrer la pasteurisation au sein de l'appellation, attention, le vrai camembert, c'est celui au lait cru. Il faudra que les gens s'y retrouvent dans les étiquettes et c'est surtout qu'on fait un précédent pour après, est-ce que ça touchera pas d'autres appellations?
Le ministre de l'Agriculture assure qu'il ne s'agit pas d'un cheval de Troie. Même discours chez la sénatrice Nathalie Goulet.
J'ai aucun rapport avec les industriels du lait.
Ils vous ont pas demandé un petit coup de main?
Ah, pas du tout.
Elle ne fait que son job, dit-elle, quant à son type de camembert.
Vous êtes plutôt lait cru ou lait pasteurisé?
Moi, je suis au régime Donc j'évite le camembert.
Voilà, Calandos contre camembert pasteurisé, la bataille des saveurs expliquée sur franceinter.fr. La campagne européenne, elle doit commencer médiatiquement dans deux jours avec le premier débat entre candidats sur France 2 et sur France Inter. Et on a appris hier soir que le plateau risquait de s'agrandir. Le Conseil d'État demande à ce que Benoît Hamon, Florian Philippot et François Asselineau soient aussi invités, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici.
Et à 7h40, on termine avec l'auteur le plus vendu dans l'Hexagone depuis 8 ans.
28 millions d'exemplaires vendus dans le monde ces 7 dernières années. Guillaume Musso sort son nouveau livre, de retour avec un polar dont le héros est un écrivain retiré du monde, La vie secrète des écrivains, dans lequel Guillaume Musso défend le droit de lire tous les livres et tous les styles. Ilana Mor-Youssef.
Un écrivain culte, Nathan Fowles, vit à l'écart du monde sur une île de la Méditerranée. 20 ans qu'il n'écrit plus. Pourquoi ? Nul ne le sait, mais une jeune journaliste, Mathilde, et un apprenti écrivain, Raphaël, sont bien décidés à percer son secret. Dans La vie secrète des écrivains, chaque chapitre commence par une citation de Daniela Ferrière, Elena Ferrante, Umberto Eco. Le roman est une célébration du plaisir de lire. Guillaume Musso.
Moi, j'ai été élevé par une mère qui m'a appris très très tôt à ne pas être snob, à lire Balzac, à lire Tolstoï, mais à lire aussi Pagnol, à lire King, sans pour autant dire que tout se vaut. Hein. Mais l'un des propos du livre, c'est effectivement de dire qu'on peut prendre du plaisir avec des romans très très différents.
On trouve même dans le livre, hommage discret à Bernard Pivot, un pastiche assez réussi de l'émission Bouillon de Culture.
Là, on est vraiment tout le temps sur cette frontière. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Il y a beaucoup de premiers lecteurs qui me disent « Ah mais moi, je suis allé chercher sur Wikipédia pour savoir si l'île existait. Est-ce que Nathan Fowles existe? À un moment, vous vous mettez un petit peu en scène. Mais alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est pas vous ?»
Et c'est vrai, on marche. On va sur Internet pour vérifier. Dommage que pour la résolution des meurtres, car il y en a, trop de péripéties accumulées rendent l'enquête extravagante.
La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso, c'est aux éditions Calman-Lévy.
Merci Sébastien Legénie.